La province sud réunie en séance publique ce matin à l'ordre du jour des élus, le compte administratif de la collectivité et son budget supplémentaire. Le 13 mai, un beau gâchis. Christian Théin s'exprime pour la première fois depuis sa libération. Le leader de la CCAT continue de nier les faits qui lui sont reprochés. L'actualité internationale, tête d'un oui, tête d'un non. La réponse de Normand de Donald Trump. Le président américain déclare que personne ne sait ce qu'il va faire concernant une éventuelle intervention en Iran. Le sport et V5 qui a coupé la ligne d'arrivée de la Groupama Race. Le monocoque néo-zélandais est arrivé à bon port hier soir à 21h30. Romance est deuxième et devrait bénéficier d'une compensation pour avoir porté assistance à Rush Hour. De la natation et un troisième titre de champion de France pour Maxime Grousset. Le Calédonien a remporté la nuit dernière la finale du 50 mètres nage libre à Montpellier. La météo en Nouvelle-Calédonie, nuages et averses intéressent la grande majeure partie du territoire. Les températures maximales stationnent entre 24 et 26 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, compte administratif et budget supplémentaire au menu de l'Assemblée de la province sud qui se réunit ce matin. Un exercice difficile dans un contexte encore fortement marqué par les violences insurrectionnelles de mai 2024, Léana Colombo.
Si la province sud n'avait pas été bien gérée depuis 2019, elle serait aujourd'hui en faillite. C'est ce qu'affirme d'emblée Sonia Baquès en présentant l'état des lieux. Cette gestion rigoureuse se traduit, explique-t-elle, par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, ce qui a permis de faire face à la baisse de 28% des recettes fiscales à laquelle la province a été confrontée depuis les émeutes. La province a ainsi pu prélever dans son fonds de roulement pour amortir une partie des décisions qui s'imposaient après l'effondrement catastrophique de l'économie calédonienne. Elle a aussi eu recours à l'emprunt avec un taux d'endettement qui atteint aujourd'hui 54%. Ce bilan sera fait ce matin à l'occasion de l'examen du compte administratif 2024, explique la présidente de la province sud.
Demain va passer le compte administratif de la province sud, c'est-à-dire le bilan de l'année dernière. Ce qui est prouvé par ce bilan, c'est que la bonne gestion de la province a permis d'absorber la crise, évidemment avec les aides de l'État. Mais concrètement, on a fait beaucoup d'économies de dépenses publiques, 200 postes en moins, beaucoup de dépenses de fonctionnement qui ont été supprimées et qui nous permet de maintenir le niveau d'investissement. Et c'est ça qui est important en ce moment au niveau économique, c'est qu'on puisse continuer à investir, que les sociétés de BTP continuent à avoir des travaux, qu'on puisse continuer à faire travailler les entreprises calédoniennes.
C'est sur cette base qu'a été préparé le projet de budget supplémentaire de la province avec une augmentation de recettes de 6%, soit 3,154 milliards de francs. Une augmentation due également à des ajustements des dotations et des participations de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. Le budget supplémentaire prévoit de maintenir un niveau d'investissement élevé avec 2,455 milliards en crédits d'investissement. Le problème, c'est l'incertitude sur le versement du prêt de l'État qui est subordonné aux réformes.
La difficulté qui arrive, c'est qu'en fait, le prêt de l'État qui est prévu a deux tranches, une première tranche qui a été versée et une deuxième qui doit être versée en fonction d'un certain nombre de réformes. Concrètement, si ces réformes n'ont pas lieu, cette deuxième tranche ne sera pas versée et c'est l'effondrement des collectivités qui ne sont pas capables d'absorber la baisse de recettes telle qu'elle est prévue, puisqu'en fait, ce qui est prévu par l'État, c'est une aide sur 3 ans. Et si cette aide, elle n'a été versée que sur la première tranche, concrètement, les collectivités ne peuvent pas s'en sortir jusqu'à la fin de l'année.
Le calendrier de réforme était fixé initialement au 30 juin. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a obtenu un délai supplémentaire d'un mois. Mais dans le contexte actuel et faute de majorité au Congrès, il semble difficile que les réformes attendues par l'État soient votées avant le 31 juillet.
Et outre l'approbation du compte administratif 2024 et le budget supplémentaire 2025, les élus procéderont également ce matin à la dénomination du collège de Magenta, qui s'appellera désormais collège Jean Lec, et du collège des Portes de Fer, qui va devenir le collège François Oliveau. La province doit également réglementer les inscriptions dans les écoles primaires publiques de la province sud. Dans l'actualité institutionnelle toujours, en l'absence d'Alcide Ponga en déplacement à Paris, c'est Thierry Santa qui a présidé hier la réunion hebdomadaire du gouvernement. 8 projets de délibération et 19 arrêtés ont été adoptés, Jean-François Bodin.
Il a d'abord été question de la création d'un dispositif d'aide à la continuité pays pour faciliter les déplacements des résidents des îles Loyauté, de l'île des Pins et de Bélep par voie aérienne et maritime. Le projet de délibération adopté vise à simplifier et ajuster ce dispositif en révisant notamment le quota des billets aidés par bénéficiaire et en renforçant les justificatifs de résidence permanente. Pour le reste, une grande part de cette réunion a été consacrée aux questions budgétaires puisque les membres du gouvernement ont approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice 2024, que ce soit pour le budget propre ou les budgets annexes de reversement et de répartition de la Nouvelle-Calédonie. Au final, fin 2024, le budget propre fait apparaître un résultat excédentaire annuel en fonctionnement de près d'1,4 milliard et de 843 millions en investissement. Le budget de reversement affiche lui un résultat global cumulé de 6,2 milliards et celui de répartition un peu plus de 14 milliards. Ces comptes devront être maintenant soumis à l'examen des élus du Congrès.
En bref, la Fédération calédonienne du BTP s'émeut dans un communiqué de la décision d'un opérateur pétrolier qui a fait le choix d'importer une structure modulaire de Chine pour reconstruire une station-service. Une solution inacceptable dans un contexte aussi critique pour l'économie locale, écrit la FCBTP, qui ajoute que les entreprises du secteur disposent des compétences, de l'expertise et de la réactivité nécessaires pour répondre aux besoins de reconstruction. La FCBTP appelle les donneurs d'ordre public ou privé à s'engager en faveur du tissu économique local.
Radio Rythme Bleu, 6h36.
Je le disais en titre, Christian Théin s'exprime pour la première fois depuis sa remise en liberté. Il a donné une conférence de presse la nuit dernière à Montpellier. Il reste, selon son avocat, mis en cause dans le dossier des commanditaires présumés des violences de 2024. Le leader de la CCAT, qui est en effet mis en examen pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs, est placé sous le statut de témoin assisté pour complicité de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et provocation directe au groupement armé suivi des faits. Le statut de témoin assisté est un statut intermédiaire entre celui de mise en examen et celui de simple témoin. Christian Théin, qui est donc concerné, qui concerne les suspects à l'égard desquels des indices rendent vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission de l'infraction, Léana Colombo.
Et il conteste toujours l'ensemble des charges qui lui sont reprochées. Concernant le 13 mai, il parle d'un beau gâchis. « Je suis terriblement triste pour mon pays », a-t-il déclaré. Il affirme qu'il était déconcerté en se réveillant, je cite, « avec l'insurrection dans les quartiers ». Il déclare qu'il n'a jamais été question de sacrifier des vies. Et concernant son rôle à venir en tant que président du FLNKS, puisque je rappelle qu'il a été élu à la tête du Front indépendantiste alors qu'il était incarcéré en métropole. Il rappelle qu'une convention du FLNKS est prévue le 28 juin pour décider de la position indépendantiste concernant les discussions sur l'avenir institutionnel. « Si je suis là, tant mieux », a-t-il déclaré, même s'il se dit considéré ne pas être irremplaçable. Christian Théin appelle à sortir par le haut, selon ses mots. « On ne peut pas répéter tous les 30 ans la même chose. » Il exhorte l'État à se projeter et de fixer une voie vers la pleine souveraineté. Fin de citation.
Merci Léana Colombo. Il est 6h passé de 38 minutes après la pause de publicité. L'actualité dans le monde et la suite de la guerre entre Israël et l'Iran. Les États-Unis et la France ont pris position la nuit dernière.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
C'est parce qu'on aime les jardins et les plantes que l'on va se retrouver ce dimanche 22 à Farino pour la traditionnelle fête du jardin. Amoureux et collectionneurs, vos belles plantes vous attendent. Venez découvrir vos trésors à Farino de 7h à midi. Plantes vertes et rares, orchidées, arbustes parfumés, endémiques, plants de légumes, palmiers, bougainvilliers et bien d'autres merveilles. Aussi, quelques stands de produits du terroir. Restauration et café sur place, rendez-vous à la mairie pour une matinée de nature et de convivialité. Tous à la fête du jardin ce dimanche à Farino.
Faites une pause Kit Kat en Australie.
Avec Kit Kat, jusqu'au 30 juin 2025, un séjour à Sydney pour deux personnes est à gagner.
Pour jouer, achetez deux chocolats Nestlé, Kit Kat, Smarties et Lyon. Écrivez votre nom, prénom et numéro de téléphone derrière votre ticket de caisse. Glissez-le dans l'urne en magasin.
Participez en ligne sur jeunestlé.nc/chocolat.
Règlement du jeu disponible chez Nestlé. Jeu gratuit sans obligation d'achat.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Israël, Iran, sixième jour de guerre, de nouvelles frappes ont eu lieu des deux côtés. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, signale la destruction par Tsahal de bâtiments où sont fabriqués des composants de centrifugeuses nucléaires. Et du côté des États-Unis, Donald Trump reste flou concernant ses volontés d'intervention en Iran. Peut-être, peut-être pas, écoutez.
Je pourrais le faire, ne pas le faire. Personne ne sait ce que je vais faire. L'Iran rencontre de nombreuses difficultés et souhaite négocier. Et j'ai dit, pourquoi n'avez-vous pas négocié avec moi auparavant ?
Donald Trump qui demande la reddition du régime des Mollahs. En réponse, l'ayatollah Khamenei, guide suprême du pays depuis 1989, ne lâche rien et menace son retour. Caroline Baudry pour Europe 1.
Oui, les États-Unis affirment être en mesure de l'éliminer. Et moins de 24 heures après, le guide suprême apparaît à la télévision pour la première fois depuis le début de la guerre.
Le peuple iranien résiste fermement face à ces menaces, comme il l'a toujours fait.
Mon pays ne se rendra jamais, ajoute Khamenei. Les dommages seront irréparables si les États-Unis interviennent. Donald Trump affirme dans la foulée que sa patience envers l'Iran est à bout.
Cela signifie que j'en ai assez, j'abandonne. Depuis 40 ans, ils disent mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à tous ceux qu'ils n'aiment pas. Et nous avons été menacés par l'Iran pendant de nombreuses années. Et si vous remontez à 15 ans, je disais nous ne pouvons pas laisser l'Iran obtenir une arme nucléaire. Je le dis depuis longtemps et je le pense encore plus maintenant que je ne l'ai jamais pensé.
Le président américain, en position de force d'un point de vue militaire, ajoute que l'Iran est de nouveau entré en contact avec la Maison-Blanche pour négocier sur le nucléaire. Il n'est pas trop tard, dit-il, malgré les morts et les destructions.
Et certains pensent déjà à l'après. Reza Pahlavi, le fils du Shah, appelle les Iraniens au soulèvement national. Le prince héritier estime que le régime des Mollahs est en train de s'effondrer. Il affirme qu'il a un plan pour sortir son pays du chaos. En France, je le disais, Emmanuel Macron a réagi. Un conseil de sécurité a été organisé autour du président de la République pour aborder cette situation au Proche et au Moyen-Orient. La réunion s'est achevée tôt ce matin pour nous. Le chef de l'État a notamment appelé Israël à cesser les frappes sans lien avec le programme nucléaire iranien. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Oui, le président de la République a marqué sa préoccupation sur l'escalade militaire en cours entre les deux pays. Selon Emmanuel Macron, je cite, « les frappes israéliennes visent de plus en plus des objectifs sans lien avec le programme iranien. L'Élysée s'inquiète également du nombre croissant de victimes civiles des deux côtés. Mais le président de la République rappelle que l'Iran doit stopper ses activités de déstabilisation régionale. » Emmanuel Macron charge également son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de lancer une initiative avec nos alliés européens dans les prochains jours afin de proposer un cessez-le-feu et un processus de paix entre les deux pays. Enfin, lors de ce Conseil de défense, François Bayrou et son gouvernement ont reçu la mission de faciliter le rapatriement de tous les Français qui le souhaitent et de garantir leur sécurité.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. J'ajoute que dans un sondage CSA pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche, 87% des Français estiment qu'il faut empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. L'actualité nationale est le conclave des retraites qui s'est achevé hier comme prévu, mais dans la douleur. À l'issue d'un marathon de plus de 15 heures de négociations, les partenaires sociaux, syndicats et représentants du patronat ont presque acté l'échec de ce conclave, entamé maintenant il y a 4 mois, et ce à la demande du Premier ministre François Bayrou. Alors il y aura probablement une dernière réunion en forme de baroud d'honneur lundi, mais les positions du MEDEF et de la CPME étaient de toute façon trop éloignées de celles des syndicats. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Oui, la CFDT et les deux autres syndicats ont pourtant lâché du lest en se montrant disposés à signer un accord sans remettre en cause l'âge légal de départ à 64 ans. Mais en échange, les syndicats sont gourmands. Ils réclament que l'usure et la pénibilité permettent aux salariés de partir avant l'âge légal. Hors de question pour le MEDEF et la CPME qui privilégient la prévention et les reconversions professionnelles. Hier soir, tard, à l'issue d'une journée vaine et tendue, la CFDT et la CFTC ont proposé un dernier round de négociations lundi, mais le MEDEF ne croit pas à cette réunion de la dernière chance et envisage de claquer la porte, a fait savoir Patrick Martin ce matin.
Pour ce qui me concerne, je suis très réservé. Le MEDEF a fait des avancées remarquables mardi il y a 8 jours sur les carrières des femmes, sur l'usure. Ces propositions ont été balayées.
Si l'échec du conclave se confirme, François Bayrou sera en grande difficulté. Impopulaire, à la tête d'une majorité divisée, le Premier ministre aura perdu son pari d'utiliser les partenaires sociaux pour désamorcer la bombe politique d'une potentielle abrogation de la réforme des retraites.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Il est 6h45, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire, avec notamment une saisie de 500 kilos de cocaïne dans le Pacifique. Les douanes françaises ont joué un rôle important en coopération avec les douanes australiennes, américaines et néo-zélandaises. On en parle juste après la pub.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
nouveau stock de deck cohue chez All Woods, de 1,80 m à 5,70 m. Et jusqu'au 30 juin, profitez des Happy Weekends. Moins 15% pour les particuliers, du vendredi 13h au samedi 11h30. All Woods, 22 rue Descartes à Ducos ou sur Facebook.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Info matin, la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et je le disais donc, la douane communique sur une saisie de 500 kilos de cocaïne dans la région. Une opération conjointe donc des douanes françaises, australiennes, américaines et néo-zélandaises. De leur côté, les douaniers de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ont saisi 209 kilos de cette drogue entre mars et mai. La poudre blanche était conditionnée dans des conteneurs transportant notamment des panneaux d'isolation à destination de l'Australie. Il y a eu 3 autres saisies du côté de Melbourne. Il s'agit là de la technique dite du rip-off. Elle consiste à utiliser des conteneurs destinés au transport de marchandises légales pour y cacher de la drogue à divers endroits du conteneur après qu'il a été dédouané au départ et dans le but évidemment de récupérer les stupéfiants avant les contrôles à l'arrivée. L'actualité en Nouvelle-Calédonie marquée également par du rififi à Bourail où certains réclament la tête du président du comité de foire, Levi Roy. La foire de Bourail n'avait pas pu être organisée en 2024 et elle est prévue cette année les 15, 16 et 17 août. Mais vendredi dernier, lors d'une réunion d'organisation, il y a eu quelques troubles. Des coutumiers sont venus réclamer la démission du président. Une polémique sur fond de descente du drapeau kanak lors de la cérémonie du 8 mai. Le récit de Levi Roy, le président du comité de foire de Bourail.
À 5 minutes avant la fin de cette réunion, nous étions 4 avec des membres de mon association ainsi que des directeurs. On entend brusquement des coups de poing dans les portes, des coups de pied dans les portes. Et là, une vingtaine de personnes rentrent à l'intérieur de la salle du conseil municipal et vient me menacer direct par rapport à la descente du drapeau de la commémoration qui a eu lieu le 8 mai. Sachant que c'est le Haut-Fer qui a pris la décision de descendre ce drapeau, je ne vois pas pourquoi la foire de Bourail vient à l'intérieur, parce qu'après, ces gens-là me menacent directement en me disant « tant que tu seras président de cette foire, il n'y aura pas de foire cette année ». Donc encore une politique de la violence, un silence du maire à côté, sachant qu'une heure avant cette réunion, organisée depuis très longtemps, on avait fait 2-3 semaines de ça, on avait demandé rendez-vous, une heure avant la réunion, on nous demande de changer de salle, sachant qu'on était 8, quand on rentrait très bien dans une petite salle, ils nous mettent dans la grande salle du conseil municipal. Donc voilà, je m'interroge un petit peu sur l'organisation de cette réunion-là. Et derrière, il est hors de question que je cède à cette violence, encore une fois, où on essaye d'apaiser, sachant que la foire de Bourail, c'est un endroit où on se rassemble, on fait des efforts, on s'adapte, on essaie d'amener quelque chose, un nouveau souffle pour les gens, parce que les gens en ont besoin. Mais cette foire, elle est attendue. Je répète, c'est 680 millions de retombées pour le pays. Elle est importante, notamment par les gens qui ont perdu leur emploi. Aujourd'hui, qui sont revenus à la terre, ils ont besoin d'écouler leurs produits. Avec les chambres consulaires, on fait un gros travail dessus. Les provinces et derrière, on sent encore une espèce de méchanceté où on mélange un petit peu tout.
Levi Roy qui affirme sa détermination à ne pas se laisser intimider et à conserver la présidence du comité de foire de Bourail. Joint au téléphone, le maire de Bourail, Patrick Roblin, affirme qu'il n'avait pas convié les coutumiers du district qui ont fait irruption à la fin de la réunion. Il affirme avoir déclaré face au comité d'organisation qu'il ferait le nécessaire pour que la foire se passe avec les personnes qui sont là autour de la table, c'est-à-dire le président, le vice-président et les membres du comité qui étaient présents.
Radio Rythme Bleu, 6h48.
La province sud a organisé hier après-midi la visite d'un atelier d'insertion à la direction de l'emploi et du logement. Une initiative menée avec l'État dans le cadre du contrat de développement 2024-2027. Il s'agissait de montrer concrètement les actions engagées pour accompagner les demandeurs d'emploi. Un enjeu d'autant plus important depuis les émeutes de mai 2024. Le haut-commissaire Jacques Billan a salué les résultats obtenus.
Ce nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 10% de mai 2024 à mai 2025. Donc je voulais voir cette direction de l'emploi et du logement qui est dirigée par des fonctionnaires vraiment très engagés dans leur mission. On a pu le constater lors des ateliers avec, et j'en suis très heureux, des résultats très positifs et en tout cas un reçu de la part de toutes les personnes qui sont suivies, un retour très positif et une vraie reconnaissance par rapport à l'accompagnement qui est mis en place. Ça représente, on le voyait, 271 millions de francs qui sont consacrés à ce volet insertion, retour à l'emploi, chantier d'insertion. Ce sont des millions d'euros qui permettent surtout de mettre en place des actions concrètes et de changer la vie des Calédoniens.
Charles est l'un des bénéficiaires du dispositif. Il a perdu son travail à la suite des émeutes et il revient sur son parcours et les outils qu'il a acquis lors de cette formation d'un mois à la DEL.
J'ai eu un licenciement économique sur mine, qui fait que après j'ai été obligé de m'orienter sur d'autres projets professionnels sur Nouméa. Et à travers cette équipe Envie, qui m'ont apporté beaucoup de soutien, ça m'a permis d'essayer de m'orienter, de faire mes recherches métiers sur d'autres projets professionnels sur Nouméa. Tout ce qui est communication, tout ce qui est apprendre à refaire un CV, tout ce qui est apprendre à faire une lettre de motivation, et puis surtout refaire confiance à l'employeur. Puisque maintenant, avec ce qui s'est passé, on a perdu la confiance des gens, qui fait qu'on essaie de se réapprendre à se faire confiance surtout.
Sonia Baquès, la présidente de la province Sud, était également présente pour cette visite qui marquait la fin du premier dispositif de réorientation professionnelle lancé cette année. 7 autres sessions sont prévues d'ici décembre. En bref, la disparition d'Amasio Taoutou, 7e adjoint à la mairie de Dimbéa et également membre du service de la jeunesse et des sports à la province Sud. Il pilotait notamment le programme Jeunesse et Développement Durable pour la province. La municipalité de Dimbéa lui rend hommage. Je cite, « Il s'est pleinement investi dans ses mandats, notamment dans les secteurs de la jeunesse, de l'environnement et du développement durable, des domaines dans lesquels il s'est également largement impliqué dans sa vie professionnelle en tant qu'agent de la fonction publique calédonienne. Son engagement sans faille pour la ville de Dimbéa, sa bienveillance et son sens du service public ont marqué l'équipe municipale et l'ensemble de la collectivité. Amasio Taoutou, donc, s'est éteint mardi à l'âge de 65 ans à la suite d'une longue maladie. Vos rendez-vous enfin sur notre antenne samedi, ce sera la fête de la musique. Elle existe depuis 1982 et elle est relayée chaque année sur le territoire. Alors que représente cette fête? Eh bien, nous en parlerons ce matin avec notre invitée à 7h30 qui sera la directrice du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, Pascal Denis-Guian. L'occasion de faire le point sur le fonctionnement du conservatoire et sur les événements à venir qu'il prépare. Et puis à l'occasion de la Groupama Race, nous nous intéresserons ce midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à l'économie du nautisme et de la plaisance. A-t-il lui aussi subi le contre-coup des émeutes? Eh bien, nous en parlerons avec Sébastien Fellman, le directeur de la Sodemo, avec Frédéric Mignard du CNC et Christophe Besson qui est directeur de Marine Corail. Il est 6h passé de 52 minutes. On va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité sportive. Et on va parler évidemment de la Groupama Race puisque V5, le premier bateau, est arrivé à bon port hier soir.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
Chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez du kilo de frites pour 100 francs de plus. Soit le tout à 1090 francs seulement. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans vos 4 magasins. À Pogoti, Magenta, Faubourg et Vata. Maison Thirier, goûtez, ça change du surgelé.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme. À visiter dès à présent en concession au showroom Mazda, situé 174 rue Auguste Bénévigue, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité sportive, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Et l'équipage néo-zélandais du V5 est le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée de la New Caledonia Groupama Race. Après plus de 3 jours et 11 heures en mer, le monocoque néo-zélandais a donc accosté hier soir vers 21h30 au port Brunelet. Sous les applaudissements du public, les marins ont été accueillis dans une ambiance détendue. Écoutez Brian Peterson, le skipper du V5, qui revient sur le déroulement de cette course.
C'était fantastique. L'équipage a fait un super boulot. On est tous vraiment heureux. Le plus dur, je dirais, ce sont les conditions qu'on a eues en descendant la côte ouest. Une mer compliquée, désordonnée, le bateau tapé dans tous les sens. C'était vraiment très inconfortable. Mais les bons moments ont largement compensé. Sur la côte est, on a eu une glissade incroyable sous Jane Aker. On a atteint 25 nœuds. L'ambiance à bord était top, on se connaissait déjà tous, chacun a trouvé sa place. Aucun souci, que du travail d'équipe, c'était vraiment fantastique.
Et cette course, évidemment, a été pleine de rebondissements. À l'origine, on le sait, les favoris étaient bien les Australiens de Rush Hour, mais leur parcours, eh bien, s'est brutalement arrêté après avoir chaviré en pleine nuit. On s'en souvient, Frédéric Mignard, le vice-président du CNC, revient sur la gestion de cet incident.
Par le passé, il y a déjà eu des péripéties, mais de cette gravité, entre guillemets, c'est la première fois. Vu le nombre de bateaux, parce que là, cette année, on a battu le record avec 23 bateaux au départ, on se doutait qu'il allait y avoir quelques incidents, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. C'est une organisation qui est malgré tout bien rodée. On avait envisagé tous les scénarios, et pour l'accident de Rush Hour, s'est trouvé que tout s'est bien coordonné avec le COS, avec les forces armées, donc non, c'est une grande satisfaction. De ce côté-là.
Le classement final n'est donc pas encore déterminé. Les Australiens de Romance, deuxième, pourraient bénéficier d'une compensation en temps pour avoir porté assistance à Rush Hour. Et puis derrière, on retrouve quatre équipages calédoniens qui se disputent le podium. Pulpito, Young Guns, BNC et Speed Marine. Ils devraient franchir la ligne d'arrivée dans la matinée selon les dernières estimations. Le sport, c'est aussi la suite des championnats de France de natation à Montpellier avec des Calédoniens encore engagés. Et la nuit dernière, Maxime Grousset a remporté la finale du 50 mètres nage libre d'un petit centième devant Nikita Bèze en 21 secondes 68. Un nouveau titre de champion de France après ceux sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres nage libre. Du tennis à présent, et Loïs Boisson qui devra passer par les qualifications à Wimbledon. Sa demande de wildcard a été refusée. Pour la demi-finaliste de Roland-Garros, sa décision du tournoi londonien n'est pas une surprise. Depuis son épopée Porte d'Auteuil, la Française s'est remobilisée et a découvert le gazon, une surface qu'elle ne connaissait pas. Écoutez son manager, Jonathan Danière de Végie.
Elle s'est bien préparée sur herbe. Elle a fait tout ce qu'il fallait depuis Roland-Garros pour se remettre à fond dans son entraînement. Voilà, elle prend chaque tournoi de la même manière, que ça soit Roland-Garros, Wimbledon, Saint-Gaudens. Elle aime bien souvent dire, Loïs, que dans tous les cas, si elle fait un tournoi, c'est avec toujours l'objectif de le gagner, peu importe le tournoi. Depuis qu'elle a découvert la surface, elle prend beaucoup de plaisir et elle s'amuse beaucoup dessus. Alors évidemment, c'est différent quand ce sont des matchs officiels. Hein. Évidemment, là, ce ne sont que des entraînements. Mais elle a en tout cas un premier bon feeling, un bon ressenti. Et donc, c'est très positif pour l'instant.
Loïs Boisson qui devra donc gagner 3 matchs de qualification pour accéder au tournoi principal. Du tennis toujours, mais à Nouméa ce coup-ci avec le deuxième tournoi ITF Junior de Nouméa pour les 13-18 ans. Il y a encore un Calédonien en lice chez les garçons, Zach Genoudet, qui a battu l'Australien Om Kumaran Shinaswamy 6-2, 6-4. Il sera opposé aujourd'hui en quart de finale au Japonais Daisuke Hashimoto. Ce sera sur les courts du Wentoro.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Des événements comme la Groupama Race sont-ils, selon vous, de nature à donner une image plus attractive de la Nouvelle-Calédonie ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Et puis, je vous donne également la réponse à la question d'hier. À l'unanimité, les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pense que 85 ans après, il est toujours important de commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à la question du jour.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin de belles éclaircies feront progressivement leur apparition sur l'ouest, sur les autres régions. Le ciel restera très nuageux à couvert et souvent pluvieux. Le vent pour ce matin est orienté est-nord-est, faiblira autour des 10 à 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds. Ce sera vers Marais et l'île des Pins. Cet après-midi, il sera variable faible sur l'ouest avec encore quelques rafales dans les vallées. En début de journée, nuages et averses, donc pour cet après-midi, intéresseront la majeure partie du territoire. Quelques éclaircies résisteront toutefois sur le sud-ouest. Les températures actuelles sont comprises entre 24 et 26 degrés en général.